Le journal d'Alexis Morel. Bonjour Alexis.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Prendre le temps de discuter, en finir avec la course effrénée au moment de payer. Des hypermarchés font le pari de caisses plus lentes pour rompre l'isolement des clients âgés. Alors coup de com' ou vraie tendance, nous avons testé. Plus de temps, c'est ce que réclament aussi les enseignants pour préparer le bac. Omicron perturbe les révisions des épreuves de spécialité prévues en mars. Faut-il les reporter ? La décision du ministre de l'Éducation est imminente. Au sommaire aussi, les premiers doutes chez LR sur la campagne de Valérie Pécresse. Les putschistes burkinabés menacés de sanctions. Et les handballeurs français en quête d'une revanche à l'Euro.
Et à 7h50, on prend de la hauteur. La star de la montagne, Kylian Jornet, dit de lui que c'est l'un des meilleurs alpinistes au monde. Charles Duboulos sera avec nous. Il vient de réussir l'ascension des Grandes Jorasses en solitaire, en plein hiver et par la face nord. C'est l'un de nos meilleurs alpinistes, ce sera juste avant 8h.
France Inter.
C'est peut-être le début d'un changement de mentalité dans la grande distribution.
Et si on ralentissait le rythme à la caisse pour prendre le temps de se parler ? Jusque-là, ce n'était pas vraiment la tendance avec la multiplication des caisses automatiques pour toujours aller plus vite. Mais la pandémie, les confinements, la solitude qui va avec sont passés par là. Et des enseignes appuient sur le frein. Ces derniers jours, Carrefour propose dans ses hypermarchés des blabla caisses, une caisse où l'on n'est pas pressé, où l'on peut papoter avec l'hôtesse. Des concurrents comme Auchan et Système U se positionnent aussi sur ce créneau. Remettre de l'humain au moment de payer, les clients, notamment les plus âgés, sont plutôt séduits. Vous l'avez constaté, Rémi Brancato, à Villiers-en-Bière, Seine-et-Marne.
D'habitude, à la caisse de cet hypermarché Carrefour, on s'en tient à bonjour.
Vous allez bien ? Ça va et vous ?
Mais Vanessa Chenilco, la caissière, prend le temps avec les clients.
Vous avez trouvé tout ce qu'il vous fallait ?
Elle tient la seule blabla caisse du magasin et elle discute avec Lucien.
Le blabla, moi ça me va bien. C'est une caisse où on prend le temps. Les personnes qui se sentent un peu seules peuvent discuter avec la caissière et moi je trouve ça assez sympathique.
Le dispositif existe depuis 15 jours, Pascal ne connaissait pas.
C'est vrai que discuter, non, c'est bien, ça verbe. En ce moment, les gens sont enfermés sur eux-mêmes.
Vanessa a déjà des clients réguliers.
J'ai une petite dame, on a nos petites habitudes maintenant. Non, où elle glisse des petites poignées de bonbons en fin de passage de caisse, oui. Ils sont à la blabla caisse, ils prennent leur temps et puis si les autres ils sont fâchés derrière, tant pis.
Pour ceux qui sont pressés, il y a toujours les caisses automatiques, mais Carrefour assure changer de philosophie, fini le décompte précis de la performance des caissières. Selon Gaëlle Prempart, en charge de l'expérience client.
On a toujours les indicateurs, hein, le temps d'attente en caisse, le temps interclient et le temps d'encaissement, c'est-à-dire le nombre d'articles que l'assistant de caisse va pouvoir encaisser. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on met moins en avant.
De toute façon, pour Nicole, pas besoin d'autorisation pour papoter.
Moi, j'ai toujours discuté, même quand il n'y avait pas de panneau. Hein. Je m'en moque complètement.
Ici, elle s'est même fait une copine parmi les caissières qu'elle revient voir toutes les semaines.
Au revoir.
Et 150 des 180 hypermarchés Carrefour sont désormais équipés de ces blabla caisses. La pandémie qui bouleverse les habitudes et chamboule une nouvelle fois la préparation du baccalauréat. Les épreuves de spécialité, un tiers de la note finale, sont prévues dans un mois et demi. Mais avec les absences en cascade de professeurs et d'élèves, ça devient compliqué de les maintenir telles quelles. Les syndicats enseignants demandent donc leur décalage à mai ou juin. Ils seront de nouveau reçus ce midi au ministère de l'Éducation. Alors report ou simple aménagement. La décision de Jean-Michel Blanquer est imminente. On l'attend en tout cas de pied ferme dans les établissements, comme à Vaux-en-Velin, près de Lyon, où les profs occupent leur lycée depuis hier soir, Mathilde Imberti.
Dans ce lycée, 250 élèves sont concernés par les épreuves de spécialité du bac et l'angoisse grimpe. Nicole Desnoyers, professeure de français.
Ils sont très stressés, ils nous posent beaucoup de questions. Est-ce que les épreuves vont finalement être reportées ou pas ? C'est plutôt un vent de panique chez les lycéens.
Et le Covid qui complique la donne.
Tantôt on a 7 élèves, parfois on en a 20, mais c'est pas les mêmes, donc c'est ça qui est difficile.
Le calendrier était de toute façon intenable selon Nicolas Kemoun, professeur de sciences économiques et sociales.
Intenable en termes de préparation des élèves, etc. Si on insistait et qu'on mettait ces épreuves au mois de mars, ces notes n'auraient aucun sens en fait. Les utiliser pour sélectionner les élèves pour l'enseignement supérieur serait vraiment totalement inégalitaire selon les établissements, selon qu'ils ont été touchés par la maladie ou pas.
Plusieurs enseignants de lycée Robert Doisneau ont monté un campement en salle des profs hier soir. Une action symbolique pour expliquer qu'il faudrait étudier jour et nuit pour boucler le programme d'ici mars. Maintenant, ils attendent la sentence de Jean-Michel Blanquer.
Qu'elle vienne du bout du monde ou pas, peu importe, mais qu'elle intervienne rapidement, quoi.
Eux plaident pour un report des épreuves de spécialité en juin.
Mathilde Imberti, et 2 ans après le début de cette pandémie, la France franchit la barre des 130 000 morts du Covid. Sous l'effet d'Omicron, les hospitalisations continuent d'augmenter, près de 31 000 ce matin, mais la légère baisse se poursuit en réanimation.
Et dans ce contexte toujours tendu, il faut bien faire campagne malgré tout.
À un peu plus de 70 jours de la présidentielle, Valérie Pécresse est attendue ce soir dans l'Ain pour parler santé et énergie et tenter de dynamiser une campagne un peu trop sage et classique selon certains à droite. Des doutes commencent même à émerger chez LR, Anne Souhaitemont.
Qu'elle fasse un peu plus de politique et un peu moins de technique. En coulisses, ils sont de plus en plus nombreux à s'interroger sur la stratégie de Valérie Pécresse. École, justice, handicap, ruralité, elle fait du thématique alors qu'on a besoin de symbolique, tonne une petite main. Sa campagne manque d'un récit, de marqueur, renchérit un sénateur. Même Nicolas Sarkozy constate, d'après un visiteur du soir, que la campagne ne s'emballe pas. Hausse de 10% des salaires, quasi-suppression des droits de succession, tous ou presque le disent à droite, noyés dans un programme à rallonge, les mesures fortes sont là, mais les Français ne les retiennent pas. Pécresse doit trouver sa martingale, son travailler plus pour gagner plus. Dans l'entourage de la candidate, on la défend. Valérie est un diesel, dit l'un. Ça ne sert à rien de parler aujourd'hui, personne n'écoute, dit l'autre. Faux, ils ont tout faux, s'énerve un membre de l'organigramme. Il nous reste un peu de temps avant l'entrée en campagne de Macron. Il faut un changement de cap, s'énerve un parlementaire. Valérie Pécresse n'a aucun sens politique, se régale un ministre.
Anne Souhaitemont, c'est du jamais vu en France depuis 1969. L'INSEE publie à l'instant son estimation de croissance pour toute l'année 2021. Plus 7% au-delà des prévisions du gouvernement. L'économie a donc en grande partie rattrapé le plongeon historique du PIB en 2020. Et voilà une entreprise du CAC 40 qui ne connaît pas la crise. LVMH, le géant du luxe, signe lui aussi une nouvelle année record. Leader mondial du secteur, le groupe présentait hier soir son bilan 2021. Avec un chiffre d'affaires de 64 milliards d'euros, en hausse de 44% Agnès Soubiran.
Un succès résume peut-être l'année 2021 pour le groupe LVMH, celui du parfum sauvage de Dior.
Le parfum sauvage est devenu le premier parfum au monde. Et non seulement pour les parfums hommes, mais également plus fort que tous les parfums femmes existants. C'est la première fois que ça se produit dans l'univers du parfum.
Bernard Arnault, le PDG du groupe, a expliqué ses résultats records par la hausse de la demande américaine et asiatique et le retour de la clientèle européenne. Petit bémol, l'absence de touristes à Paris qui pèse sur les débuts de la Samaritaine. La crise qui entraîne également des difficultés logistiques. Mais Bernard Arnault se veut optimiste pour la suite.
On vient de traverser 2 années très difficiles. Je pense quand même que les choses vont plutôt continuer à s'améliorer. Mais nous avons un avantage sur pas mal d'autres sociétés, c'est de pouvoir avoir une certaine flexibilité sur nos prix. Donc, face à l'inflation, on a des moyens de réagir et je pense que la demande pour nos produits va continuer à être forte.
Et comme visiblement le succès appelle le succès, l'acquisition du joaillier américain Tiffany & Co. se traduit aussi par des ventes records.
Il revendique 16 millions de visiteurs. Le site de petites annonces ou annonces est visé par une plainte pour proxénétisme aggravé. En cause, sa rubrique rencontres éphémères qu'auraient utilisé des adolescentes mineures pour se prostituer. Ce sont d'ailleurs les parents de certaines jeunes filles qui déposent cette plainte.
France Inter, 7h38. Le coup de fil entre l'Elysée et le Kremlin est prévu à 10h45 ce matin.
Emmanuel Macron doit parler de l'Ukraine avec Vladimir Poutine. La France veut encore croire à la solution diplomatique et à l'apaisement. On en est loin pour l'instant, les États-Unis craignant une invasion russe de l'Ukraine d'ici mi-février. Si cela devait arriver, Washington prévient, cela mettrait un coup d'arrêt à Nord Stream 2, ce gazoduc reliant la Russie à l'Allemagne qui est un débouché majeur pour Moscou. Ils sont au pouvoir depuis 3 jours à Ouagadougou, les militaires putschistes du Burkina Faso, dans le viseur de la CDAO, la communauté des États ouest africains, se réunit en urgence aujourd'hui. Elle pourrait décider de sanctions comme elle l'a déjà fait contre la junte malienne. Mais Claude Guibal, pas sûr que des mesures punitives aient un effet.
En Afrique de l'Ouest, une blague circule sur tous les réseaux sociaux. C'est la saison des putschs. Après la Guinée, le Mali, le Burkina, attention, le variant sahélien est là. Et il est très contagieux. Un jeu de mots loin de faire sourire les chefs d'État de la région, car cette succession de coups d'État n'a fait que souligner la fragilité des régimes en place et donc celle de la CEDEAO, l'institution régionale qui les rassemble. Il y a 15 jours, la CEDEAO avait imposé de très lourdes sanctions au Mali pour obliger les militaires à rendre le pouvoir aux civils. En vain, non seulement le Mali s'est empressé de contourner les sanctions, mais elles ont de plus permis aux militaires de fédérer derrière eux une population furieuse de ces punitions qui impactent d'abord le quotidien des citoyens, faisant flamber les prix et provoquant des pénuries. La peur des sanctions n'a pas plus freiné les militaires burkinabés qui ont pris le pouvoir 2 semaines plus tard à Ouagadougou et parient eux aussi sur un soutien populaire. Pour les populations, en effet, la CEDEAO apparaît comme de moins en moins légitime, déconnectée des peuples, puisqu'y siègent majoritairement des chefs d'État sur la sellette, barrant les alternances démocratiques comme au Togo, ou élus à la suite de processus électoraux contestés.
Et de son côté, la junte au pouvoir au Burkina tente ce matin de rassurer le nouvel homme fort du pays, le lieutenant-colonel Damiba promet le retour à une vie constitutionnelle normale, mais sans donner de date. C'est assez serré en ce moment à Melbourne entre Matteo Berrettini et Rafael Nadal, l'Italien contre l'Espagnol pour une place en finale de l'Open de tennis d'Australie. Nadal a certes remporté les deux premiers sets, mais son jeune rival italien résiste bien, il a décroché le troisième.
Les handballeurs français, eux aussi, veulent décrocher leur place en finale.
En finale de l'Euro, et ça passe forcément par une victoire ce soir contre la Suède. Un air de déjà-vu, puisque ces deux équipes se sont affrontées il y a un an au Mondial. À l'époque, les Suédois l'ont emporté, alors les Bleus ont très à cœur de prendre leur revanche, Jean-Pierre Blimeau.
Il y a un an, la campagne d'Égypte s'était arrêtée brutalement pour la France, battue en demi-finale du Mondial par une équipe de Suède qui avait largement dominé les Bleus de 6 buts dans le huis clos d'une épreuve déjà perturbée par le Covid. Ce soir, les Bleus de Guillaume Gilles veulent oublier le Caire et bonifier face à la Suède leur victoire extraordinaire de mercredi face au Danemark.
Une équipe de Suède qui joue un très bon handball, qui est très solide, qui a un maître à jouer qui est vraiment le de cette équipe, mais on sait que dans un dernier carré, dans un week-end final, tout est ouvert.
Le principal gardien tricolore, Vincent Gérard, veut croire que le formidable sursaut de mercredi aidera d'ailleurs les Bleus à passer l'obstacle suédois.
Les scénarios des matchs contre la Suède et celui contre le Danemark sont un peu similaires, c'est-à-dire qu'on prend l'eau très vite, sauf qu'il y a un truc qui a changé, c'est qu'on a réussi à se remettre dedans, à repartir de l'avant.
Nicolas Karabatic, qui a raté le mondial l'an dernier, n'a pas joué la demi-finale perdue face aux Suédois. Il est d'autant plus décidé ce soir à poursuivre l'aventure dans cet Euro pourtant très éprouvant pour le vétéran tricolore de 37 ans.
C'est une compétition très longue. Avec la bulle, on a l'impression de ne pas sortir de l'hôtel. L'impression peut-être parfois d'être un zombie qui ne voit pas le jour. Mais il va falloir que j'aurai encore de l'énergie. Ça va se jouer bien sûr au mental.
Nicolas Karabatic n'a été laissé au repos qu'une seule fois depuis le début de l'Euro. Budapest, Jean-Pierre Blimeau, France Inter.
Et le temps que l'on parle hand, Jérôme Cadet, eh bien Rafael Nadal vient de se qualifier à l'Open de tennis d'Australie. Qualification pour la finale. Il a battu l'Italien Berrettini. Enfin, on est jaloux ce matin, Jérôme, de nos voisins belges et de leur nouveau passeport présenté hier et illustré par de la bande dessinée. Sur chaque page, un classique de la BD belge. Vous retrouvez la fusée de Tintin sur la page de garde, mais aussi Black et Mortimer ou encore le marsupilami dans les pages intérieures. De quoi peut-être faire sourire le douanier.
Vous voulez changer de nationalité, Alexis, vous voulez devenir belge
pour un passeport en BD, pourquoi
ça vous fait réfléchir, j'ai l'impression. Merci Alexis Morel pour ce journal. L'édito politique est à suivre.